Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information, ce soir, a le plaisir de vous proposer une nouvelle séance du cycle Enjeux internationaux que nous développons depuis plusieurs années maintenant, depuis plusieurs saisons, avec le CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po, dont l'auguste directeur Alain Dikoff est présent ce soir et va se faire le plaisir d'animer la séance qui est consacrée au thème des petits États, le petit titre « Petit mais costaud, quelle diplomatie pour les petits États ?» Et Alain va vous présenter les différentes intervenantes qui vont vous parler de ces problématiques. Je vous souhaite une bonne soirée.
Bonsoir à toutes et à tous. En effet, c'est la troisième saison en fait de ce cycle des enjeux internationaux, donc qui nous permet d'aborder pendant 4 ou 5 séances au cours de l'année, de chaque année académique, hein, c'est-à-dire de septembre au mois de mai, juin, différents thèmes en rapport avec les relations internationales. Et donc ce soir, en effet, on a un plateau autour de cette question des petits États et de la diplomatie des petits États avec un titre très percutant, hein, « Petit mais costaud hein. ». Et donc avec un panel exclusivement féminin, à part moi, qui nous permettra d'aborder différentes facettes de cette question. Alors je les présente par ordre successif. À ma droite, Oriane Guilbeault, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8 et qui a publié un livre qui s'appelle « Business Partners, firmes privées et gouvernance mondiale de la santé » qui est paru aux presses de Sciences Po. Donc ça n'a pas un rapport direct avec les petits États, mais bon, voilà, je reviendrai un peu aussi sur un numéro spécial qui aborde cette question. Ensuite, Delphine Placidi, qui est professeur à l'Université Paris Sud, à Sceaux, et qui a travaillé sur différents aspects aussi des relations internationales, et dont l'ouvrage que je souhaite citer est un ouvrage portant sur les négociations internationales, qui est aussi paru aux presses de Sciences Po en 2013. Et enfin, une autre Delphine Alès, qui est professeur à l'Université Paris-Est Créteil, et qui a publié l'année dernière un livre en anglais, Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy, qui est paru à Routledge, donc un éditeur britannique en 2015, qui a beaucoup travaillé aussi sur les relations internationales, mais en particulier sur les questions de rapport entre religion et relations internationales, et en particulier en Asie du Sud-Est. Voilà le plateau de ce soir. Alors, ce que je voulais dire avant de commencer à lancer les premières questions, c'est que cette thématique est en particulier abordée dans un numéro spécial hein, de la revue Critique internationale, voilà, qui est une revue comparative de sciences sociales et qui a publié précisément au début de cette année un numéro qui était consacré aux petits États au prisme du multilatéralisme, numéro auquel mes trois collègues ici présents ont participé avec des articles portant sur différentes questions que nous aborderons d'ailleurs au cours de cette soirée. Alors pour commencer, on va commencer par quelque chose d'assez classique, mais qui est évidemment important. Les petits États, qu'est-ce que c'est ? Bon. Petit, bien sûr, mais petit, ça recouvre quoi ? C'est quoi la petitesse d'un État ? C'est quoi, du coup, aussi, là, évidemment, la grandeur, si je puis dire, d'un État ? Donc, j'aimerais peut-être commencer par cette question de définition. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir une idée un peu plus claire de qu'est-ce que c'est qu'un petit État et qu'est-ce qui le différencie du coup de d'autres États qui ne le seraient pas? Donc peut-être Oriane Guilbeault peut commencer par essayer de répondre à cette question.
Oui, eh bien, donc effectivement, savoir ce qu'est qu'un petit État, on peut essayer de déterminer ce que c'est. C'est pas forcément évident. Il n'y a pas une seule définition de ce qu'est un petit État. On peut néanmoins essayer de déterminer des critères. On vous a préparé quelques cartes. Je ne sais pas si on peut.
On les a ici, mais on ne les a pas sur le.
Voilà, faire en sorte qu'elles s'affichent à l'écran.
Voilà, c'est bon.
Où, voilà, là, sur cette première carte, on a une première catégorisation des États en fonction de la population des États. Donc, les États ayant une population de moins de 10 millions d'habitants sont ceux représentés avec les tout petits cercles. Idem, si on s'intéresse à un critère en termes de richesse des États, ici, avec, en fonction donc, du produit intérieur brut de ces États. Et puis également, éventuellement, en termes d'indices de développement humain, on voit qu'on peut, que les États sont bien évidemment inégaux par rapport à cet indice.
Alors, peut-être juste, vous pouvez préciser un peu ce que c'est l'indice de développement humain ?
Alors, donc, l'indice de développement humain, c'est un indice qui est utilisé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour mesurer, en fait, le niveau de vie et de bien-être dans les sociétés, pas seulement en fonction de critères économiques et purement de richesse économique, mais également d'espérance de vie et plus généralement de déterminants sociaux, en fait. Pour ne pas avoir une compréhension du développement purement en termes économiques. Ces petits États, en fait, il y en a énormément sur la scène internationale, puisqu'ils représentent plus de la moitié en fait des États membres des Nations Unies. Il y a plus de 105 États des membres de l'Organisation des Nations Unies qui ont moins de 10 millions d'habitants et qui se reconnaissent en fait comme étant des petits États puisqu'ils vont appartenir en fait à un groupe informel, le Forum des petits États, le Forum of Small States, dont on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc plus de la moitié en fait des membres de la communauté internationale qui se reconnaissent comme des petits États, ça vaut la peine qu'on s'intéresse à ce que ça veut dire. Donc je vous propose, on peut commencer par il y a trois manières qu'on peut de définir ce que pourrait être un petit État. Je vous le disais d'abord en se basant sur en fait des critères quantitatifs. C'est peut-être ce qui nous vient immédiatement à l'esprit en termes d'indicateurs statistiques, superficie du territoire, taille de la population, PIB, capacité militaire également, pourquoi pas. L'inconvénient d'une telle définition, c'est que le seuil retenu va varier en fait selon les contextes, selon ce qu'on veut montrer également. Par exemple, quand on s'intéresse à l'Union européenne, on qualifie généralement de petit État les États qui ont moins de 10 millions d'habitants. La Banque mondiale, par exemple, définit aussi une catégorie de petits États, mais là comme des États qui ont moins de 1,5 million d'habitants. Donc, il faut essayer d'aller plus loin qu'une simple définition par des critères, on va dire, quantitatifs. Alors, on peut aussi définir un petit État, on va dire, de manière intersubjective. Comme je le mentionnais tout à l'heure, il y a des États qui se reconnaissent explicitement comme petits États. Vous avez également des organismes comme la Banque mondiale ou l'Organisation du Commonwealth également, qui définissent certains États comme appartenant à une catégorie de petits. C'est un type de définition également intersubjective à partir du moment notamment où on va se retrouver dans le discours politique, par exemple, des dirigeants qui vont reconnaître que leur poids politique est limité en fait à une échelle locale et pas mondiale, par exemple. Ça, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte immédiatement qu'il y a des usages politiques et qu'il y a un usage également instrumental de cette notion de petits États, en fait. Il y a une définition, en fait, qu'on appelle contextuelle, qu'on peut nommer contextuelle relationnelle, c'est-à-dire qui définit vraiment un petit État en fonction d'un contexte spatial et temporel déterminé. Donc, par rapport à des voisins géographiques, par exemple, ou par rapport à un contexte de négociation menée. Donc on ne va pas être petit dans l'absolu, ni même petit par rapport à tous les autres États du monde, on va être petit par rapport donc, à ses voisins géographiques immédiats, ou on va être petit, par exemple, dans les négociations climatiques internationales. Et là, le petit État, ça va être l'État qui, en fait, est la partie la plus faible d'une relation de puissance asymétrique. Donc à partir de là, évidemment, on peut aussi panacher ces critères pour essayer de définir ce qu'est un petit État. Mais c'est... et je crois ce qu'on va bien... Enfin, voilà, ce soir, on va insister sur le fait qu'évidemment, on est petit. C'est une notion qui est nécessairement relationnelle. On est petit nécessairement par rapport à un autre État qui est plus grand. Mais c'est important d'essayer de déterminer au maximum le contexte, de vraiment d'essayer également d'ancrer les choses un petit peu empiriquement, de prendre en compte les usages politiques qui sont faits de la notion. Et puis également du fait que c'est une notion qui peut varier dans le temps. Voilà.
Très bien. Delphine, une des deux Delphine, les deux d'ailleurs, peuvent s'exprimer sur ce propos.
Oui, pour rebondir sur ce que disait Oriane et peut-être pour ancrer empiriquement son propos, j'ai envie de développer l'exemple de Singapour qui met parfaitement en relation les différentes catégories qu'Oriane a mentionnées. Singapour, c'est un État qui semble correspondre au premier abord à la catégorie petit État. Si on se penche sur une carte, Singapour, les dirigeants et les diplomates singapouriens sont très attachés au fait de rappeler, comme ça leur a été dit de manière assez hostile, qu'ils ne sont qu'un petit point rouge sur une carte entourée par ces grands archipels que sont l'Indonésie et la Malaisie. Géographiquement, c'est à peu près aujourd'hui 700 km², ça augmente puisque Singapour gagne des territoires sur la mer chaque année. En termes de population, ça correspond à la définition quantitative que donnait Oriane, puisque c'est un peu plus de 5 millions d'habitants, donc on est bien en dessous des 10 millions qui est le critère pour appartenir à l'Alliance ou au Forum des petits États. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Singapour a développé des méthodes, des moyens, qui sont ceux de puissance beaucoup plus classiques, pour s'extraire de la condition de petite puissance. Donc il y a une déconnexion dans le cas de Singapour entre la taille du territoire et de la population et l'appartenance à ce que serait la catégorie des petites puissances. Le PIB de Singapour aujourd'hui le situe au 40e rang mondial, c'est-à-dire au-dessus du Pakistan, pour vous donner un ordre de grandeur. En termes de dépenses militaires, Singapour est au 24e rang mondial, c'est-à-dire juste au-dessus de la Pologne. Pareil pour vous donner un ordre de grandeur. Donc en termes de capacité, on a un État qui est très largement extrait de cette catégorie des petites puissances, tout en appartenant, de par sa taille et sa population, à celle des petits États. Ce qui est très intéressant aussi avec le cas de Singapour, et toujours pour continuer sur les catégories que mentionnait Oriane, c'est le fait que Singapour, tout en cherchant à s'extraire par ses capacités de la catégorie des petites puissances, continue à entretenir le récit selon lequel il est un petit État. Ce discours de la taille et de la faible taille et de la vulnérabilité qui serait inhérente à cette condition de petit État, il est extrêmement présent dans le discours de la diplomatie singapourienne. Toute cette rhétorique donc du petit point sur la carte que je mentionnais tout à l'heure, toute une rhétorique de la faiblesse de Singapour qui serait vulnérable face à des voisins plus grands qui sont très souvent abordés comme hostiles. C'était le cas au début, ça allait beaucoup moins aujourd'hui. Tout ça permet bien sûr de mobiliser la population intérieure autour d'un discours qui permet de légitimer des dépenses militaires qui sont très importantes à hauteur de 3,3% du PIB. Ça permet bien sûr de mobiliser en soutien au régime politique autoritaire qui est celui de Singapour, et puis ça permet bien sûr aussi d'accréditer l'idée de cette belle histoire qui est celle de Singapour, partie c'est le discours qui est très souvent repris, partie d'une condition de village de pêcheurs, ce qui est très largement extrapolé, qu'aurait été Singapour en 65 pour arriver à ce statut de cité-État extrêmement développé qu'il est devenu aujourd'hui. Donc il y a vraiment, dans le cas de Singapour, effectivement des conditions qui sont celles au départ d'un petit État, mais une position dans les relations internationales qui est celle d'un État significatif, disons d'un partenaire significatif. Les partenaires diplomatiques de Singapour ne prennent absolument pas Singapour pour un petit État ou pour quantité négligeable. Et ça, c'est très clair si on échange avec des diplomates, par exemple français, mais de tous les États partenaires de la cité-État. Et un discours, troisième aspect, un récit qui consiste à maintenir cette idée d'une vulnérabilité inhérente à la condition de petit État.
Oui. Je pense qu'en effet, là, vous mettez l'accent sur cette dimension précisément que vous appelez contextuelle, c'est-à-dire que il y a une fausse petitesse objective, mesurée en termes de superficie ou de taille, mais de population plutôt, et ensuite il y a la réalité des rapports qui peuvent exister entre les petits États ou les cités-États comme Singapour et ensuite leur environnement qui montre que là finalement ils ont une certaine puissance, une certaine capacité d'action. Delphine Placidi, je ne sais pas si vous voulez peut-être ajouter encore une fois sur cette question qui évidemment à laquelle on reviendra un petit peu inévitablement, mais sur cette question de définition.
Oui, alors peut-être définir aussi pour compléter encore un peu le puzzle, les petits États. Alors moi qui ai davantage travaillé sur la question des Nations Unies, alors du Conseil de sécurité mais également de l'Assemblée Générale, par le fait que les petits États s'autodéfinissent effectivement, comme Oriane l'a rappelé, parfois en participant à des groupes, à des coalitions dans lesquelles le nom apparaît véritablement. Hein. Alors on a parlé du Forum des petits États. Il y a également plusieurs structures qui regroupent les petits États insulaires, puisque une caractéristique, c'est qu'un certain nombre de petits États, il y a des petits États évidemment enclavés, hein, en Europe, en Amérique du Sud, etc. Mais on a aussi des petits États insulaires, hein, qui sont souvent d'ailleurs des États en développement, qui sont menacés par les changements climatiques, et donc qui se sont regroupés au sein de coalitions. Alors il y a l'Alliance des petits États insulaires, qui a été un peu pionnière, qui s'est beaucoup impliquée dans les négociations sur les changements climatiques. D'ailleurs, Fidji a proposé d'accueillir la prochaine COP, qui sera hébergée en Allemagne, parce que pour des raisons de ressources d'accueil de 15 à 20 000 diplomates, Fidji ne pourra pas les héberger. Mais voilà, on a des petits États insulaires qui se regroupent ensemble pour être un petit peu en pointe sur ces questions. Il y a également une association de petits États en développement qui milite pour l'abaissement des frais d'inscription dans des négociations, ou pour prolonger les échéances de remboursement des prêts à la Banque mondiale ou à FMI. Voilà, donc il y a une dimension collective dans l'implication des petits États. Et puis, pour rebondir un peu sur le Conseil de sécurité, et vous montrer également une carte, peut-être qui a un peu une façon aussi de définir les petits États par là où ils ne sont pas, aussi là où ils n'ont pas la parole. On vous a choisi une carte sur les États qui n'ont jamais été ou ont très rarement été membres du Conseil de sécurité depuis sa création. Alors, ce ne sont pas systématiquement des petits États. Évidemment, il y a des États qui, ne serait-ce que parce qu'ils sont indépendants depuis 15-20 ans ou parce que pour des raisons de politique internationale, je pense par exemple à Israël, pour lequel l'élection au Conseil de sécurité serait politiquement sensible et donc jusqu'à présent, Israël n'avait jamais candidaté. Ça vient de changer, hein, puisqu'ils ont candidaté pour être élus au Conseil de sécurité, je crois, dans 4-5 ans. Mais voilà, globalement, on a quand même beaucoup d'États. On a une soixantaine d'États qui n'ont jamais été membres du Conseil de sécurité, dont pourtant des États fondateurs. Et puis, on a des États qui sont un petit peu, voilà, qui sont ce qu'on qualifie parfois de touristes au Conseil de sécurité, parce qu'en fait, ils font un petit passage et ensuite, ils ne sont pas présents. Donc, c'est aussi intéressant de voir les petits États à la fois dans la façon de s'auto-identifier et puis dans la façon aussi de ne pas être présents, hein, de ne pas compter, comme on dit, sur la scène internationale et notamment dans les enceintes internationales où il y a des processus d'élection ou de sélection des participants.
Alors, en fait, là, vous avez déjà abordé une question que sur laquelle j'aimerais peut-être qu'on s'étende un tout petit peu. Donc, vous avez cité, en effet, certains forums un peu propres qui rassemblent les petits États, que ce soit le forum des petits États ou les États insulaires, par exemple. Moi, j'aimerais peut-être aussi que vous réagissiez un petit peu sur la question de est-ce qu'il y a des types d'engagement, des types de causes particulières qui mobilise ces petits États? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles ils sont plus sensibles et qui font qu'ils essayent d'avoir une action? Et est-ce qu'il y a un mode justement d'action particulière au niveau international? Est-ce qu'ils sont plus dans des logiques de multilatérales, c'est-à-dire avec en travaillant avec beaucoup d'États, ou est-ce qu'ils sont plutôt dans des logiques bilatérales? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça à ce propos? Je ne sais pas qui veut s'exprimer. Oriane,
je vais commencer. C'est une question qui est absolument centrale et très intéressante. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aussi aux petits États? Parce que la question la plus intéressante, c'est comment est-ce qu'ils participent au système international? Est-ce qu'ils peuvent avoir une influence, un impact, participer à le définir, à le transformer, alors que traditionnellement, on se dit que ce sont les grandes puissances, les membres fondateurs du Conseil de sécurité, les relations entre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, etc., qui vont vraiment influencer l'ordre du monde. Et là, il y a deux questions qui peuvent se poser. Comment les petits États interviennent dans cet ordre-là? Et est-ce qu'ils ne peuvent pas également avoir une action transformatrice? Et ça, c'est intéressant de voir que au XIXe siècle, notamment quand on pensait, la vision des petits États était assez négative. Ils étaient vus comme des États qui pouvaient poser des problèmes de sécurité, être fauteurs de troubles, à l'origine de conflits. Et ça, c'est un petit peu, c'est la vision qui s'est généralisée au moment évidemment de la Première Guerre mondiale, avec la poudrière balkanique, etc. Et puis, je ne sais pas, en tout cas, c'est mon impression, mon analyse. Désormais, aujourd'hui, on a une vision quand même beaucoup plus positive des petits États, qui est due notamment au développement du multilatéralisme et d'un multilatéralisme que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, ne souhaite pas seulement un multilatéralisme défini par les grandes puissances, mais un multilatéralisme, on pourrait dire, de peut-être plus démocratique, ou en tout cas avec la participation de vraiment tous les États sur la scène qui sont membres de la communauté internationale. Et donc, de ce point de vue-là, comment est-ce que ces petits États participent pour exister et survivre? Ils participent déjà par... c'est une des caractéristiques qui est souvent mise en avant, leur investissement au sein des organisations internationales et de ce multilatéralisme qui finalement leur permet d'exister et leur donne des moyens d'exister en étant fondé sur un principe de un État égale une voix dans les organisations internationales. Ça, c'est un principe très important et que les petits États vont s'attacher à défendre. Et donc à partir de là, il y a un certain nombre d'investissements multilatéraux et des organisations qui sont développées. Néanmoins, pour faire face au fait que ce sont des États qui sont dotés de ressources moindres, pas forcément sur tous les tableaux, mais la caractéristique d'un petit État normalement, c'est que il ne dispose pas d'autant de ressources que les autres, sur tous les tableaux, même s'il peut développer des ressources très importantes dans un domaine, on va dire, de niche. Et donc, comment on fait? Il y a des stratégies effectivement d'alliance qui sont privilégiés. On va essayer de peser en étant nombreux. Il y a des stratégies également d'essayer de favoriser, en fait, d'endosser un rôle d'intermédiaire désintéressé. Ou de médiateur. On peut rassembler les deux là rapidement sous le même titre. Donc dans les négociations, essayer d'investir notamment les structures de négociation en étant par exemple président de séance pour avoir une marge de manœuvre sur le déroulement des négociations. Les petits États peuvent aussi assez souvent prendre le rôle de médiateur dans les conflits. C'est un grand thème important sur lequel les petits États se sont investis, donc je garde ça peut-être pour tout à l'heure, pour développer un petit peu plus là-dessus. Il y a Mais malgré cet investissement dans les organisations internationales et sur le multilatéralisme, hein, les petits États, bien évidemment, développent également des relations bilatérales. Et ça va dépendre des cas de figure et notamment des conditions de leur survie. En fait, parce que ça, c'est aussi une des caractéristiques partagées par de très nombreux petits États. En fait, c'est du fait de leurs moindres ressources, une inquiétude quant à leur survie territoriale, et pas seulement parce que ils sont menacés de disparition face au changement climatique, mais aussi menacés de disparition par annexion, tout simplement, par un voisin plus puissant. Et donc la recherche de la sécurité et de la survie, c'est généralement un déterminant important de la politique étrangère de ces petits États. Et pour ça, le multilatéralisme, c'est un des moyens de ne pas être membre de l'ONU ou de l'OTAN, etc., mais également à développer des relations bilatérales de protection en fait, avec une grande puissance. C'est également un mode d'action, on va dire, important sur la scène internationale.
Oui, j'avais noté en effet, mais vous venez juste de le dire, que le statut finalement de... entre guillemets, statut de petit État, incite aussi évidemment à rentrer dans des logiques de protection, c'est-à-dire d'avoir en effet une puissance un peu tutélaire. Et on voit que par exemple beaucoup de petits États du Pacifique par exemple sont dans cette logique-là, et tous ces États insulaires où les États-Unis souvent ont un rôle très important, mais pas seulement eux, l'Australie aussi peut avoir ce type de rôle, même la Nouvelle-Zélande avec des très petits États. Donc c'est vrai qu'il y a cette dimension du patronage un petit peu qu'on peut tout à fait comprendre, mais qui est très présent chez eux. Alors peut-être dans ces questions aussi d'action par rapport à ce qui a été, je crois que vous aviez pu évoquer aussi sur la question de leur rôle aux Nations Unies, peut-être qu'on pourrait avoir par Delphine Placidi un petit éclairage sur précisément le type d'action qu'ils peuvent développer à l'intérieur du Conseil de sécurité, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU, comme vous le savez, est un organe très important, mais il y a 5 membres permanents, donc que vous connaissez tous, la Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne et la France, mais il y a 10 membres qui sont en rotation, non permanents, qui viennent, et là, évidemment, les petits États peuvent aussi de jouer un rôle. Donc peut-être que Delphine peut dire quelques mots sur ça, sur les types de stratégies qu'ils essaient de développer pour se faire entendre, quoi, grosso modo.
Volontiers. Juste avant, je suis une élève désobéissante. Je
voudrais aucun problème.
Non, rebondir sur un thème qui
mais bien sûr, vient bien d'être sûr.
Évoqué par Oriane, parce que je ne pensais pas l'évoquer parce que c'était ça me paraissait un peu historique, mais c'est tout à fait symptomatique du changement de perspective sur les petits États et de changement de vision. Alors, on reste dans le multilatéralisme et on remonte à la Société des Nations, donc l'ancêtre des Nations Unies. Et en fait, ce que disait Oriane sur le changement de regard porté aux petits États est intéressant, puisque les Nations Unies, comme la SDN d'ailleurs, ont été conçues comme des organisations à vocation globale ou universelle, mais vous le savez sûrement, la SDN n'a jamais été une organisation universelle. L'ONU d'ailleurs au départ également était une organisation de vainqueurs, et puis petit à petit on a inclus les puissances vaincues, aussi bien dans l'entre-deux-guerres qu'après la Seconde Guerre mondiale pour l'ONU. Mais ce qui est intéressant, c'est la position par rapport aux petits États. Et à la SDN, il y avait déjà des petits États qui candidataient à la SDN en 1919-1920, et certains d'entre eux ont été refusés d'adhésion, non pas pour des critères de positionnement dans le mauvais camp des vaincus pendant la Première Guerre mondiale, mais tout simplement parce que c'était des trop petits États. Et je pense notamment au cas... Alors, le Luxembourg, il y avait eu un débat assez long, puis finalement, il avait été accepté. En revanche, le Liechtenstein avait été retoqué. en considérant que c'était un État qui était trop petit et qu'il n'avait pas les attributs de la souveraineté. Et finalement, le Liechtenstein a été représenté par la Suisse, hein, dans l'entre-deux-guerres à la SDN. Donc voilà, il y avait vraiment cette espèce de méfiance, hein, comme disait Oriane, à l'égard de potentiels perturbateurs ou de gens, voilà, d'entités politiques qui n'avaient pas de légitimité à participer à la politique mondiale. Voilà. Et c'est vrai que le changement de regard va intervenir dans les années 50 et surtout dans les années 60 avec la prolifération de micro-États dont on s'aperçoit que finalement, ben, ils ne vont pas finalement tant que ça perturber l'ordre international. Pardon, et surtout qu'ils vont permettre de construire des coalitions, des alliances et qu'avec ce fameux un État, une voix, ils vont se mettre à compter finalement numériquement, en tout cas à l'Assemblée générale. Réunir des alliances et des coalitions, surtout que beaucoup d'États vont quand même basculer dans le camp occidental, ça va permettre de capitaliser des voix et donc des soutiens diplomatiques. Et voilà, les petits États vont avoir comme une des stratégies d'existence, ça va être de monnayer le soutien pour une résolution, pour une décision, pour une négociation, en l'échange de services, parfois financiers, parfois symboliques, parfois...
Non, je crois que vous avez, c'est un complément tout à fait bienvenu et qui montre en effet que de ce point de vue-là, il y a une différence entre l'ancêtre de l'ONU, la SDN, et puis l'ONU, parce qu'il y a vraiment cette volonté d'universalisation. En préparant justement cette séance, j'ai vu qu'en effet, les micro-États, parce que là, on peut peut-être faire une petite différence d'ailleurs, il y a les petits États, il y a vraiment les micro-États, je veux dire, du style en effet Liechtenstein ou Monaco, qui sont finalement des Monaco est venu assez récemment, les 20 dernières années, et devenu un État à part entière à l'ONU. Donc il y a vraiment une logique d'universalisation. On veut inclure vraiment tous les États du monde, hein, y compris les tout petits comme Saint-Marin, Andorre ou d'autres qui peut-être, en effet, à l'époque de la SDN, n'auraient pas été accueillis dans cette organisation. Donc voilà, je m'arrête là. Mais peut-être qu'en effet, juste cette petite... Il y a aussi petit et petit. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Voilà, ça revient un peu sur la question de définition. Il y a vraiment les micros qui sont vraiment les cités-États ou Monaco, qui est encore plus petit que Singapour à bien des égards. Et alors les très petits États, finalement, en effet. Et puis alors les petits États, mais qui sont déjà dans cette logique d'État. On peut penser par exemple à l'Autriche ou à la Suède. C'est des petits États à certains égards. Mais bon, ils ne sont pas loin de 10 millions d'habitants. C'est souvent avec une superficie plus importante. C'est quand même pas tout à fait la même chose que Monaco. C'est ça que je veux dire. Il y a aussi, à l'intérieur des petits États, il y a aussi une hiérarchie, dans le fond. Voilà. Bon, peut-être un petit complément que je voulais apporter. Mais voilà, je vous en prie.
Alors, donc le deuxième point sur les stratégies très différenciées, finalement, qu'adoptent ces États, en fonction, là aussi, de leurs ressources propres, ressources à la fois diplomatiques, hein, parce que c'est un élément important, et puis volonté politique. Certains, effectivement, vont plutôt aller dans le suivisme de grands groupes, de grandes coalitions, d'États membres permanents du Conseil de sécurité. Une des stratégies très privilégiées, c'est également la coalition, hein, donc le regroupement au sein, soit de structures institutionnalisées dont on a déjà parlé, soit de regroupements, le G77 par exemple, hein, donc le grand groupement des pays en développement qui désormais regroupe 120 pays et qui n'a jamais véritablement été homogène, mais a en son sein un certain nombre de petits États qui là aussi essayent de faire porter leur voix de façon collective. Et puis il y a également des stratégies qui vont davantage être des stratégies d'émancipation ou d'autonomisation de la part d'États qui essayent alors soit de se singulariser véritablement par rapport aux grandes puissances, soit en tout cas d'essayer de trouver de se faire le porte-parole d'une thématique, d'une expertise, et on rejoint là un petit peu la question des thématiques qui vont être avancées au sein des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité, mais pas seulement, et qui vont un petit peu se spécialiser. Les pays scandinaves, par exemple, sont assez connus pour s'être spécialisés sur des actions de médiation, de conciliation, pour essayer un petit peu de jouer les go-between dans certaines négociations. Je pense évidemment à la Norvège, qui s'est beaucoup impliquée dans le processus d'Oslo, mais qui a également fait de la médiation dans les conflits au Sri Lanka ou aux Philippines. D'autres vont davantage se spécialiser sur des pratiques de casque bleu, par exemple, hein, d'intervention au service du maintien de la paix. On a là d'ailleurs une... Non, on ne l'a plus. Ah, voilà. La carte sur les opérations. Non, voilà, sur les opérations de paix. Et on voit là un peu la singularité d'un certain nombre de petits États. Alors, en haut, vous avez les contributions financières aux opérations de paix, donc là, qui ne dépendent pas véritablement d'un choix des États, mais qui dépendent directement du PIB. Hein, puisqu'il y a un calcul qui est indexé sur le PIB, plus on est riche, grosso modo, plus on paye, à la fois dans le budget obligatoire des Nations Unies, mais aussi dans le budget des opérations de paix, qui est un budget distinct, sachant que les membres permanents du Conseil de sécurité, en raison de leur implication directe dans les décisions d'opérations de paix, ont une majoration. Voilà, donc plus on est riche, plus on paye, et a fortiori quand on est un État membre permanent du Conseil de sécurité. En revanche, vous voyez la très grande différence entre les contributions financières, donc qui sont obligatoires et qui dépendent des ressources, et les contributions humaines qui, elles, reposent sur une base du volontariat des États. Et on voit effectivement qu'un certain nombre de petits États, alors on a des États, des grands États très peuplés, hein, notamment l'Inde ou le Pakistan, qui participent massivement aux opérations de paix humainement, donc qui envoient des casques bleus, mais également un certain nombre de petits États, dont le Rwanda, le Togo, le Bénin, un certain nombre d'États africains, qui vont trouver là à la fois une ressource d'existence, de visibilité à l'ONU. Ça permet aussi, bien sûr, de former les troupes armées dans ces pays. Ça permet d'avoir également un financement. Donc les objectifs sont souvent très diversifiés, mais c'est aussi une stratégie d'existence et de reconnaissance pour la part de ces États, voire même un tremplin pour ensuite se faire élire au Conseil de sécurité. Voilà.
Delphine ?
Oui, je crois qu'il y a une vraie difficulté, pour revenir sur ce que vous disiez avant, à identifier des thématiques qui soient prioritaires et transversales et communes aux petits États, tout simplement parce que cette catégorie, elle est extrêmement hétérogène. Et on voit, alors vous parliez tout à l'heure de la distinction effectivement entre petits États et micro-États, c'est une première distinction. Si on se penche sur les modes d'action, sur les priorités de ces petits États, on peut là aussi trouver des variations très fortes entre ceux qui sont les plus intégrés à la mondialisation, les gagnants de la mondialisation, qui vont plutôt avoir tendance à s'investir très fortement dans les négociations internationales en faveur d'une libéralisation du commerce. C'est le cas de Singapour que je mentionnais tout à l'heure, mais c'est le cas de beaucoup d'autres cités-États qui font partie vraiment des avant-postes de la mondialisation. Parmi les avant-postes de la mondialisation, mais sous un angle peut-être moins positif, de très nombreux petits États sont aussi des trous noirs d'une certaine manière de la mondialisation, sont très souvent des paradis fiscaux. Ça fait partie aussi d'une diplomatie de niche. Le fait d'être un paradis fiscal permet de se distinguer, permet d'acquérir des ressources quand on n'en a pas, quand on n'a pas de ressources naturelles. Eh bien, le fait d'avoir une législation bancaire particulièrement favorable aux investissements ou des investissements qui peuvent masquer parfois des trafics, eh bien, ça permet d'attirer des ressources, des devises, et donc de survivre d'une certaine manière sur la scène internationale. Donc il y a entre ces deux catégories d'actions parfois des différences très importantes. Ça s'illustre assez bien si on observe le fait que le FOS, donc ce fameux forum des petits États, alors établit comme objectif la représentation des petits États au sein des organisations internationales et de l'Assemblée générale des Nations Unies en particulier, mais ne donne pas de consigne de vote. C'est-à-dire qu'il est très clair pour les États membres du FOS que s'ils font partie de cette organisation qui rassemble, on le disait aujourd'hui, 105 membres, donc qui est majoritaire à l'Assemblée générale des Nations Unies, ça n'entraîne aucune conséquence sur d'autres alliances qui peuvent être passées par ailleurs par les membres de ce forum. Donc il n'y a pas véritablement de position commune, il n'y a pas nécessairement de position commune des membres du FOS au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc certains de ces membres vont être proches des États-Unis quand il s'agit d'approuver des interventions internationales, d'autres vont être plus proches d'autres États, etc. Donc il n'y a vraiment pas de cohérence absolue qui serait prédéterminée par l'appartenance à ce type d'organisation.
Et d'ailleurs, les États ne sont pas toujours prêts, d'ailleurs, à afficher, on va dire publiquement ou à médiatiser hein, leur appartenance à ce forum des petits États, même si formellement ils le sont. Un État comme Luxembourg, par exemple, qui appartient au FOS pendant très longtemps, ne s'est pas trop montré aux réunions. Bon, ça a un petit peu changé. Enfin, voilà, Luxembourg était présent à l'une des dernières réunions du FOS, mais le Luxembourg bien souvent ne cherche pas à s'affirmer, par exemple, à s'afficher comme étant un petit État sur la scène internationale, même si à de très rares occasions, en fait, c'est quelque chose qui est réapparu en fait dans le discours politique luxembourgeois à propos des négociations sur le secret bancaire du Luxembourg, quand le Luxembourg a suite à des pressions européennes et de la communauté internationale, abandonné le secret bancaire, il y a très très récemment, pour justifier en fait auprès de la population de l'opinion publique luxembourgeoise parfois le fait que le Luxembourg était obligé d'abandonner sur ce point, on a pu retrouver dans le discours politique là une référence au fait que le Luxembourg étant un petit État, finalement, il n'avait pas vraiment le choix. C'est intéressant hein, de voir comment des États vont aussi jouer là-dessus, vont aussi chercher en fait à sortir de cette catégorie hein, de petit État. On le voit assez bien avec le cas du Qatar, par exemple, qui, à une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a une quinzaine d'années, était vraiment. Enfin, voilà, on pouvait dire que le Qatar était un petit État sur la scène internationale. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça soit. Pertinent du tout de le qualifier encore ainsi. Et là, il y a eu un vrai effort hein, du Qatar, de la diplomatie qatarie, en fait, aussi hein, pour sortir en fait, de cette condition de petit État de devenir essayer d'appartenir au club hein, des grandes puissances sur la scène internationale.
Je pense que là vous mettez aussi l'accent sur d'une part, en effet, l'image finalement contrastée des petits États, c'est-à-dire que, a priori, on peut peut-être penser « small is beautiful », donc on peut penser « les petits États, c'est bien », etc. Alors bien sûr, c'est bien aussi, ils ont un rôle positif pour la défense de certaines causes, ils peuvent avoir un rôle parfois actif, mais là, il faut déjà avoir un bon outil diplomatique derrière soi aussi. Si on pense à la Norvège, le rôle qu'elle a pu jouer pour aider à la signature des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens en 1993, ou au rôle qu'elle a essayé de jouer à Sri Lanka avec moins de succès, mais ce n'était pas uniquement de sa faute, bien sûr. Hein, mais là, c'est sûr que tous les petits États, de ce point de vue-là, ne sont pas la même enseigne. Et donc, pour pouvoir avoir ce rôle de médiation, il faut aussi avoir quand même un appareil diplomatique derrière soi. Hein. C'est certain que, le Belize en Amérique centrale ou Timor ne pourraient pas jouer ce rôle parce qu'ils n'ont pas ce type de capacité-là. Mais l'image contrastée me paraît importante, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, en effet, cette dimension positif qu'il peut y avoir de médiation, mais ce que vous venez de dire à l'instant, dire qu'il y a aussi cette face un peu cachée, qui est apparue pas mal dans la presse ces dernières années, du secret bancaire, etc., qui est là, évidemment aussi souvent lié à des États qui sont petits à bien des égards. Et ce qui me paraît aussi intéressant dans ce que vous avez dit, c'est l'évolution finalement d'un même État au fil du temps. C'est-à-dire Qatar, ça a été pendant longtemps finalement une sorte de soft power, c'est-à-dire on mettait en avant Al Jazeera, la télévision, les clubs de football, en Europe en particulier. Et finalement, on voit ces dernières années que le Qatar a aussi une autre face, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués indirectement dans la guerre en Syrie. Ils aident des groupes islamistes, parfois même, disons, le djihadiste. Hein. Donc il y a aussi ce contraste. Quoi. Un petit État peut changer, peut avoir plusieurs facettes en réalité. Et je ne sais pas si peut-être sur cet aspect-là, si l'une d'entre vous veut peut-être réagir sur ces variations finalement un peu diachroniques hein, au fur et à mesure du temps d'un État qui finalement peut partir d'une position où il est plutôt sur des choses bon, grosso modo sympathique, quoi. Bon, les clubs de football, la télévision, etc. Et puis finalement, peut-être quelque chose qui est un peu moins sympathique, mais qui fait aussi partie de la politique, évidemment, internationale, quoi, qui est vraiment du hard, là, pour le coup.
Oui, ce qui est intéressant, je reste sur l'exemple du Qatar, c'est que là aussi, c'est un ex-petit État, on va dire, qui... Et un petit peu en porte-à-faux aussi par rapport à autre chose que l'on a beaucoup dit, qui est que les petits États s'affirment sur la scène internationale aussi en investissant les organisations internationales et le multilatéralisme. Et c'est pas la stratégie, hein, c'était pas la stratégie du Qatar. Au départ, le Qatar, il était, enfin. Comme tous les petits États, hein, il avait son problème, c'était qu'il a un grand voisin puissant, l'Arabie Saoudite, et que donc voilà, il y avait un enjeu de survie territoriale extrêmement important. Et donc la première étape, ça a été d'assurer en fait sa sécurité. Comment ? Pas en ayant recours à des organisations internationales, mais en construisant une relation bilatérale avec les États-Unis, en permettant la construction d'une base américaine sur le territoire, etc. Et c'est à partir de là, en fait, hein, une fois que la sécurité du Qatar, au début des années 2000, a été vraiment assurée, qu'on a eu cette phase un petit peu, vous avez dit, sympathique de développement du soft power, mais aussi de diplomatie plus traditionnelle, puisque la constitution qatari en fait a été réécrite, et dans la constitution qatari, le Qatar fait explicitement référence à sa politique étrangère et à ses objectifs de politique étrangère, qui sont notamment de participer, d'assurer la paix au niveau international. Et ça, c'est aussi intéressant. Et à partir de là, le Qatar a développé des activités de médiation, hein, donc de médiation dans des conflits au Liban, conflits israélo-palestiniens aussi, je crois. Et à partir de là, bon, il y a eu aussi tous les... Voilà, on a parlé du foot, d'Al Jazeera, de la tentation, enfin de faire également du Qatar un hub international, avec une... On accueille des conférences multilatérales, on a une compagnie aérienne, enfin voilà, on est un véritable hub.
Il y a un cycle de l'OMC qui était d'ailleurs à Doha, donc à la capitale du Qatar.
Et à partir de là, effectivement, se développe actuellement, vous l'avez mentionné, avec notamment le conflit syrien, le Qatar continue, hein, on va dire, le développement de son activité diplomatique dans des domaines que nous qualifierions peut-être de moins positifs, hein, sur la scène internationale.
Je crois que cette question, très, très rapidement, en fait, ça renvoie à un aspect qui est peut-être fréquemment oublié, plus fréquemment oublié quand il s'agit des petits États que quand il s'agit de puissances significatives, qui est la question de l'autonomie décisionnelle et politique. La condition de petit État ne détermine pas absolument les positions que les dirigeants ou les diplomates de ces États vont adopter sur la scène internationale. Il reste une marge d'action diplomatique, et surtout, peut-être qu'on en parlera après, cette condition de petit État, elle est plus fréquemment une incitation à la créativité diplomatique et institutionnelle qu'un déterminant en matière de position internationale ou d'alliance.
Vous pouvez peut-être élaborer, alors, qu'est-ce que vous entendez par là, la créativité, dans quel sens ?
Oui, alors créativité, tout simplement par le fait qu'un État qui est très limité en termes démographiques va nécessairement avoir un appareil administratif et diplomatique limité. Singapour, c'est 650 diplomates, donc c'est très très peu, même au regard d'une population de 5 millions d'habitants. Donc ça rend cet appareil diplomatique à la fois très souple. Il est très facile de l'adapter. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les petits États, encore une fois, font partie des avant-postes de la mondialisation. C'est qu'ils ont la capacité de réagir et de s'adapter très très vite face aux pressions et aux incitations. Et ils vont arriver peut-être à déployer leur diplomatie de manière différente des grands États. Si on prend la manière dont l'appareil diplomatique singapourien s'organise, il est beaucoup plus centralisé que la plupart des autres diplomaties, avec énormément de diplomates à Singapour qui font de la recherche à Singapour et qui vont ensuite diffuser l'information dans des postes diplomatiques qui sont sous-institutionnalisés ou sous-investis en termes de ressources humaines par rapport à d'autres ambassades. Il y a l'invention de statuts ou de fonctions de diplomates qui sont un peu différentes des diplomates traditionnels, avec le déploiement d'un grand réseau d'ambassadeurs extraordinaires et d'ambassadeurs at large, c'est-à-dire qui sont affectés à plusieurs pays à la fois, donc qui ne sont pas résidents dans un seul pays, mais qui sont itinérants, en réalité, voilà, le terme m'est revenu, qui sont itinérants, affectés à plusieurs pays. Donc, ils n'ont pas une ambassade qui a pignon sur rue dans un État, mais ça leur permet d'une certaine manière d'être plus efficaces, parce que quand ils se déplacent dans un pays qui relève de leurs compétences, ils y vont avec un objectif précis, et en l'espace d'une mission d'une ou deux semaines, ils rencontrent les responsables les plus pertinents sur cette question-là, alors que finalement, un ambassadeur à résidence passe beaucoup de temps à avoir des activités qui ne sont pas de la négociation directe avec des dirigeants. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a une forme de créativité de la part de ces diplomaties qui sont sous-institutionnalisées. On voit aussi assez souvent des petits États avoir recourir donc à des ambassadeurs extraordinaires qui, très souvent, c'est assez intéressant, ne sont pas des ressortissants de l'État lui-même, qui peuvent avoir recours à des formes de sous-traitance d'une certaine, de certains aspects de leur diplomatie. Donc on peut voir se balader dans les couloirs des Nations Unies un diplomate d'une île du Pacifique qui aurait un accent texan, parce qu'en réalité il se ferait représenter par un citoyen des États-Unis.
Il n'est pas obligé d'avoir la nationalité, c'est
ça ? Il
n'est
pas obligé d'avoir la nationalité. En revanche, on lui confère l'immunité diplomatique qui va avec sa fonction. Un exemple dont on parle un petit peu en ce moment, la candidature assez contestée du Liban pour la présidence de l'UNESCO, Vera Khoury, représentait jusqu'à récemment Sainte-Lucie à l'UNESCO. Mais c'est une personne de nationalité libanaise.
Donc elle passe d'un petit État à un autre.
Voilà.
Si je peux me permettre justement de rebondir sur cette question, et je veux bien que tu mettes la carte parce que j'arrive pas. Pardon pour ces soucis techniques. Non, mais en fait, elle apparaît pas.
Ah, alors, voilà, c'est
bon. Ah, c'est bon, alors. Voilà. Pour rebondir effectivement sur l'importance du facteur humain et de représentation diplomatique pour les petits États, dans le cas des enceintes multilatérales, c'est à la fois alors c'est plutôt un facteur de vulnérabilité, mais qui peut effectivement, dans le cas d'États qui ont une politique de ressources humaines, parfois être néanmoins un atout. Vous avez là sous les yeux là, le nombre d'États par effectif de représentation permanente auprès de l'ONU à New York. Alors, une représentation permanente, dans le langage multilatéral, c'est une ambassade. Hein, donc c'est l'ambassade d'un État auprès d'une organisation internationale, donc là auprès du siège des Nations Unies à New York, le principal siège, hein, vous avez également un siège à Genève et puis des sièges un peu secondaires à Vienne et à Nairobi. Donc New York, c'est vraiment le cœur hein, des Nations Unies, où sont le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, et donc vraiment là où se joue la politique onusienne. Et vous voyez que il y a quand même une grande majorité d'États qui ont entre 1 à 5 ou 6 à 10 diplomates en poste, et notamment pour les petits États, dans 1 à 5, il y a beaucoup d'États qui ont un ou deux diplomates. Hein. Parfois d'ailleurs, le mari ou la femme est représentant permanent et le conjoint représentant permanent adjoint. Hein. On a une diplomatie maritale, voilà. Ou des équipes à deux ou trois. Hein. Et même quand on a moins de 10 diplomates en poste à New York, diplomates permanents accrédités, entre les congés, les maladies, les changements, etc., concrètement, on a quelques diplomates, une poignée de diplomates pour suivre quotidiennement, je cherchais le mot, plusieurs dizaines de réunions entre le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, les COSOC, les commissions, les organismes spécialisés, il y en a quand même beaucoup à New York. Donc on ne peut pas être partout. Et on ne peut pas en plus faire du suivi, préparer les textes, les discours, faire de la recherche. Voilà. Alors on a des stagiaires, quelques stagiaires, mais voilà, on n'a pas vraiment les ressources pour être partout. D'où, effectivement, cette quête de créativité, cette spécialisation sur quelques dossiers prioritaires, et puis le recours à des moyens alternatifs. Et effectivement, on a aussi aux Nations Unies des petits États qui vont utiliser les ressources d'un autre État ou qui vont un peu muscler leur représentation permanente quand ils sont élus, et donc ils vont nommer davantage de diplomates quand ils sont élus dans une instance comme l'ECOSOC ou le Conseil de sécurité. Voilà, donc on a des effectifs qui vont un peu varier. On a également, et alors ça, des grandes puissances parfois peuvent aussi utiliser cette source d'influence indirecte. C'est le cas par exemple des Britanniques qui, à travers le Commonwealth, mettent à disposition désormais aussi bien à New York qu'à Genève une espèce de pôle de diplomates à disposition des membres du Commonwealth pour leur servir de soutien logistique. Et donc, il y a des bureaux du Commonwealth qui sont à disposition, des petites délégations de membres du Commonwealth pour leur permettre de suivre les dossiers, d'avoir un historique des négociations. Et voilà, donc c'est un peu une espèce de soutien logistique.
Alors, sur ce plan-là, c'est une question qui me vient en vous écoutant. Et la francophonie ne fait pas la même chose, par exemple?
Non, jusqu'à présent, non.
Il faudra leur suggérer, ça me paraît une très bonne idée.
La France le fait un peu de façon bilatérale, mais effectivement, à ma connaissance, pour l'instant, l'OIF n'a pas. Mais l'OIF, par rapport au Commonwealth, c'est un autre débat, mais voilà, c'est quand même institutionnalisé plus tardivement. Mais elle est en train de monter en puissance. Absolument, voilà, elle est en train de monter en puissance sur le plan politique et géopolitique. Absolument.
Oui, il y en a après.
Juste peut-être pour conclure, parce que ce que vous me disiez là me faisait penser en fait à ce qu'on disait au début sur la définition de ce que c'est qu'un petit État. On avait dit qu'on allait y revenir tout au long de la séance. Et effectivement, là, on aborde deux critères également de définition d'un petit État qui étaient en fait la vulnérabilité et la résilience. Ce sont deux critères justement qui ont été en fait mis en évidence par l'organisation du Commonwealth et par la Banque mondiale également, qui font en fait de ces deux critères des conditions en fait pour des caractéristiques des États qu'ils considèrent donc comme des petits États. Et d'un certain côté, des États qui sont vulnérables souvent parce que par exemple leur économie est très spécialisée, très dépendante, etc. Mais en même temps, des États très résilients qui ont développé des mécanismes pour faire face à cela. Et donc, des États qui sont finalement très adaptables et qui ont une certaine flexibilité. Ce qui parfois leur donne également un poids sur au sein du système multilatéral, international, même qu'on voit pas forcément. Qu'on n'a pas forcément immédiatement à l'esprit, comme le fait que les petits États insulaires ont vraiment été pionniers sur les questions climatiques en raison justement de leur vulnérabilité au changement climatique et notamment à la montée des eaux. Dès les années 80, ils étaient tout à fait conscients de ce problème. Et quand il y a eu la grande conférence des Nations Unies sur l'environnement et puis le changement climatique au début des années 90, les petits États se sont organisés en alliance, l'alliance des petits États insulaires, AOSIS selon l'acronyme anglais, qui a tout de suite poussé pour qu'il y ait vraiment des négociations et pour qu'il y ait également pour qu'on prenne en compte l'adaptation, les enjeux d'adaptation au changement climatique. Bon, désormais dans les négociations internationales, c'est reconnu à peu près la plupart des États ont compris qu'il fallait adapter son économie, ses structures, etc. au changement climatique. Mais les petits États, pour le coup, l'ont compris, on va dire, l'ont compris bien avant les autres. Ils sont montrés notamment très actifs sur la question du changement climatique. L'objectif, non pas de 2 degrés, l'objectif désormais, notamment de l'accord de Paris qui a été signé, etc., c'est de limiter l'augmentation de la température moyenne de la Terre à 2 degrés, mais avec, il est mentionné qu'on essaye de tendre quand même vers 1,5 degré, si on peut. Et ça, c'est quelque chose notamment qui a été poussé par les petits États, parce que c'est, par les petits États insulaires, parce que c'est pour la condition de leur survie.
Et parallèlement à ça, ce sont ces petits États insulaires du Pacifique qui sont tête de pont sur, par exemple, la négociation d'un statut de réfugié climatique dont ils vont vraisemblablement avoir besoin, même si l'augmentation n'est que de 1,5 degré, puisqu'on commence déjà à avoir des îles comme Kiribati qui commencent à être submergées et qui donc ont besoin de pouvoir envisager légalement ce que sera le statut de leur population si elles sont amenées à devoir changer de localisation.
Oui, pour rebondir effectivement sur les capacités d'adaptation et d'expertise sur des thématiques un peu précises, effectivement, je vous montrais là une carte un schéma qui tendait à faire croire que les petits États manquent de ressources diplomatiques, mais parfois, voilà, l'ingéniosité et la politique de ressources humaines de ces États fait que non seulement ils vont se spécialiser sur des thèmes particuliers, alors voilà, les questions environnementales ou les questions de médiation, les questions de sécurité et de violence dans les conflits, hein. Je pense par exemple à la Namibie qui s'était beaucoup investie sur la question des violences faites aux femmes dans les conflits dans les années 2000, mais il va également y avoir souvent des ressources diplomatiques puisque, comme tu le rappelais, les États n'ont pas toujours de grandes ressources diplomatiques. Ils vont non seulement cibler les thèmes, mais cibler aussi les pays. Et par exemple, à New York ou à Genève, on va avoir un peu des pôles diplomatiques avec des diplomates qui vont servir de relais aussi et qui vont, par exemple, des tout petits pays comme Kiribati, Tuvalu, etc., ils ont 2-3 diplomates à Genève qui sont en fait une espèce de relais auprès des institutions européennes, auprès des pays de l'Union européenne, avec des diplomates qui bougent en permanence, qui vont dans les capitales, et du coup qui sont des ressources intellectuelle de grande qualité, parce que c'est des diplomates qui restent souvent plusieurs années en poste. Alors quand ils disparaissent accidentellement, c'est catastrophique parce qu'il y a vraiment une grande perte de connaissances et d'interactions humaines, mais on a souvent des diplomates qui restent en poste pendant très longtemps et qui parfois, je pense par exemple à des pays comme les pays de l'ex-Yougoslavie, la Croatie ou la Serbie, qui ont placé en quelque sorte des diplomates, d'anciens ministres des Affaires étrangères, qui ont pendant plusieurs années circulé dans les différentes enceintes multilatérales et qui sont ensuite montés à des postes de très grande responsabilité aux Nations Unies, représentants permanents adjoints, parce qu'en fait ils avaient rencontré tout le monde en 20 ou 30 ans de carrière bilatérale ou multilatérale. Ils avaient un peu gravité dans tous les cercles décisionnels et donc ils avaient une très grande expertise, une très grande connaissance des dossiers et puis des interlocuteurs. Et évidemment dans le milieu diplomatique ça compte.
Oui, c'est un aspect qui apparaît très clairement dans les stratégies diplomatiques singapouriennes, le fait d'envoyer ses meilleurs diplomates, ses diplomates les plus prometteurs à Genève et à New York, c'est-à-dire là où effectivement il y a une plaque tournante de diplomates et de représentants politiques internationaux pour les aider à se constituer un réseau. Et cette notion de réseau interpersonnel, pas uniquement de réseau interétatique, elle est absolument fondamentale dans la stratégie de construction de la diplomatie singapourienne, mais c'est le cas aussi pour de nombreux petits États. Pourquoi ? Parce qu'un réseau, c'est un espace de socialisation où les relations sont horizontales et où, quand on a une bonne relation avec des collègues, avec des partenaires, la question de la taille de l'État dont on vient devient finalement secondaire. Ce qui compte en premier lieu, c'est la bonne relation interpersonnelle entretenue par un diplomate ou un représentant politique donné et celui avec lequel il va dialoguer. Et c'est vraiment intéressant de voir que cette idée de réseau interpersonnel, qui peut sembler anecdotique, échange de cartes de visite, de déjeuner, de bonnes intentions, de fleurs aux occasions familiales, aux fêtes religieuses, etc., c'est vraiment construit comme une stratégie diplomatique. Ça revient systématiquement dans les retours d'expérience des diplomates singapouriens qui expliquent quelle a été leur expérience et leur métier finalement quand ils travaillaient auprès des Nations Unies. Ça va jusqu'au fait d'aller aux funérailles de membres de la famille, de leurs partenaires et de leurs collègues. Ça peut inclure le fait aussi, c'est assez intéressant, de repérer des jeunes diplomates prometteurs de pays étrangers avec lesquels on veut approfondir le partenariat, en estimant que si un ambassadeur singapourien s'intéresse à un très jeune diplomate d'un État partenaire, ce très jeune diplomate va être flatté et va du coup se souvenir de l'honneur qui lui a été fait d'être convié à déjeuner par un ambassadeur beaucoup plus expérimenté. Et effectivement, on retrouve ces relations qui se construisent dans la durée et qui permettent peut-être des années ou des décennies plus tard eh bien, d'avoir un accès privilégié au cœur d'une négociation internationale et de convaincre ses partenaires, ce qui fonctionne d'autant plus dans le cas de Singapour que les carrières sont très longues et que donc on retrouve à des postes des personnes qui y étaient déjà des années auparavant et qui ont eu le temps du coup de construire et de consolider ces relations.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que si on réfléchit, par exemple, même à certains qui ont pu arriver au rang de secrétaire général de l'ONU, bon, on a eu Kofi Annan qui venait d'un petit État, en réalité. Donc, le rôle des la socialisation, finalement, à New York est extrêmement importante et permet de dépasser, finalement, le fait qu'on vienne d'un État qui, objectivement, est petit, avec pas beaucoup de ressources, y compris diplomatiques. On parvient, disons, à transcender cette difficulté en rentrant dans cette logique de socialisation que vous avez très, très bien explicité. Alors j'aimerais peut-être, je me tourne vers Jérémy, on a encore combien de temps là en plateau? Oui, à peu près, ok, tout doucement, peut-être un dernier aspect qu'on a déjà un petit peu abordé, mais et en particulier à partir de Singapour, c'est vrai que dans ces logiques de petits États, on voit que c'est en général la dimension de puissance militaire en particulier est quand même assez souvent absente, mais pas totalement. Bon, vous avez dit ce que vous disiez sur Singapour, qui investit quand même beaucoup dans l'achat d'armement, mais même au-delà de ça, en tous les cas, il y en a peut-être d'autres, mais il y en a un auquel je pense en particulier, où on voit que même des petits États peuvent avoir une vraie puissance militaire et essayer d'agir dans la région. Là, en tous les cas, l'exemple qui vient à l'esprit, c'est celui du Rwanda. Tout le monde dans cette salle ne le sait peut-être pas. Bon, bien sûr, il y a eu le génocide que tout le monde a en tête, mais depuis, le Rwanda s'est reconstruit, et en particulier sous la présidence de Paul Kagame, qui est toujours président. Mais depuis cette époque-là, en réalité, le Rwanda, bien qu'étant petit à bien des égards, a un rôle géopolitique extrêmement important, intervient dans la plupart des conflits de la région, un rôle même parfois déstabilisateur, il faut bien le dire, sur le Congo, qui comparativement à la République démocratique populaire du Congo, qui est un grand État, en tous les cas en termes de superficie et de population, et où pourtant le petit Rwanda joue un rôle très actif militairement. Et donc là, il y a aussi parfois c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais on peut voir que parfois des petits États peuvent avoir aussi un rôle militaire, finalement, comme les grands, finalement. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que là, ils sont arrivés, finalement, à être, sinon l'équivalent, mais avoir les éléments de puissance qu'on peut retrouver dans des grands États? Comment vous verriez ce type de positionnement?
Bah là, notamment sur le cas du Rwanda, ce qui est frappant, hein, c'est l'importance évidemment de se positionner par rapport à un contexte particulier. Le Rwanda finalement exploite la faillite de l'État, de la République démocratique du Congo, et Kagame s'est vraiment positionné aussi par rapport à ça, pour réorienter également la politique de son pays vers le monde anglophone, il y a une très bonne compréhension, bien évidemment, de la part de ces États de leur contexte et environnement régional immédiat, pour se positionner par rapport notamment aux faiblesses éventuellement de leurs grands voisins. Et voilà, et la réorientation du Rwanda, notamment vers ses voisins anglophones plus stables que la RDC, c'est une vision stratégique aussi à long terme.
En effet, là, que la dimension, encore une fois, contextuelle que vous aviez évoquée compte beaucoup, et que en effet, les États, enfin certains États en tous les cas, et certains dirigeants de ces États sont parfois en mesure de tourner finalement à leur profit finalement une situation géopolitique qui a priori objectivement est à leur désavantage, mais qu'en réalité parviennent à transformer. Ce qui nous montre bien en effet que les petits États sont des acteurs qui, dans certains contextes, peuvent beaucoup compter finalement à l'échelle internationale. Donc, je ne sais pas si d'entre vous.
Oui, peut-être juste, ouais. Puisqu'on parlait enfin, voilà, de cette question militaire et puis de la question tout à l'heure de l'adaptabilité aussi de ces petits États qui, bon, pour un certain nombre d'entre eux, voilà, voilà, on l'a dit, la survie hein, territoriale, c'est un enjeu important. Donc voilà, quand même, investir dans une armée, c'est voilà, parfois important. Mais bon, c'est pas suffisant quand on a une population hein, d'une taille limitée, quand on a voilà, des ressources budgétaires également limitées face à des grandes puissances. Voilà. Et les petits États peuvent se montrer également créatifs de ce point de vue-là, notamment en développant voilà, des stratégies alternatives, notamment de formation de leur population, hein, finalement, à la défense du territoire. Là, je pense en fait à un cas enfin, voilà, relativement récent, même si ça fait plusieurs années, c'est celui de l'Estonie, qui, bah voilà, l'Estonie, c'est vraiment un petit État balte, 1,3 million d'habitants, une armée, je crois, professionnelle, enfin, une armée de 6 000 membres de, à peu près, donc face notamment bah, au grand voisin russe qui est intervenu récemment en Ukraine pour annexer une partie du territoire, ça paraît dérisoire. Et, mais depuis hein, plusieurs années, même avant l'annexion hein, de la Crimée par la Russie, l'Estonie s'était lancée en fait dans une stratégie de formation de sa population aux techniques d'autodéfense, avec la création d'une ligue estonienne de défense qui forme des volontaires, voilà, aux techniques, voilà, aux techniques militaires. Et on a vu hein, une augmentation en fait des sessions de formation après bah, l'intervention en Ukraine. Parallèlement à ça, il y a aussi un encouragement, hein, pas seulement aux volontaires qui font partie de cette ligue de défense estonienne, mais aussi vis-à-vis un appel à toute la population hein, à se former, à faire des stocks et à avoir une arme chez soi. C'est aussi une stratégie hein, développée par certains petits États qui pourtant parfois sont des États neutres également. On peut penser à la Suisse également hein, qui quand les Suisses font leur service militaire, je crois, il me semble qu'ensuite ils ramènent en fait leur arme chez eux, ce qui fait que parmi en fait je crois les 4 États au monde où parmi la population il y a le plus fort taux de possession d'armes à feu, ben je crois qu'on a les États-Unis, je crois qu'on a ensuite le Yémen, et puis ensuite on a, je crois, l'Estonie, et puis la Finlande, non pas l'Estonie, pardon, la Suisse et la Finlande. Donc 2 petits États qui, bah voilà, là c'est une stratégie alternative. Et oui, et même les Estoniens, je crois, vont plus loin que cela. Et c'est assez intéressant, hein, c'est un développement actuel, face notamment hein, à la menace russe. C'est plus très simplement une. Enfin, c'est vraiment une. La Ligue, notamment, hein, de défense estonienne, s'oriente vraiment vers d'apprendre des techniques hein, de guérilla sur le mode hein, de ce qui a pu être observé par exemple hein, en Irak, en Afghanistan, en disant que bah, si les Russes interviennent, bah, ça leur fera peur également, comme voilà, des attaques suicides, etc. C'est, enfin, voilà, en tout cas, stratégiquement, on va dire, hein, ce sont des choses qui sont, voilà, qui sont pensées, même si, bon, bien évidemment, enfin, voilà, l'Estonie ayant aussi une importante population russe, tout le monde n'est pas voilà, ne va pas être sur cette ligne, mais voilà, c'est pour montrer que dans le domaine militaire aussi, finalement, les petits États peuvent être créatifs, même, enfin voilà, même s'ils ont voilà des moyens limités.
Bien, mais je crois qu'on va peut-être s'arrêter là, en tous les cas pour le débat autour de la table. Jérémy est prêt avec un micro pour ceux qui veulent s'en saisir et pour poser des questions ou commentaire, oui.
Bonsoir, tout d'abord, merci pour exposer. Oui, pour l'Estonie, vous parliez de l'Estonie. Hein. En même temps, bon, ils sont aidés par l'OTAN. En ce moment, on a, je crois, des Mirage 2000. Les Français, justement, surveillent l'espace aérien qui a été plus ou moins, quelquefois, bafoué par les Russes. Hein. Voilà, voilà. Alors, donc, c'est quand même plus important pour eux d'avoir, disons, au sein de l'OTAN, des puissances qui peuvent les aider, plutôt que ça paraît un petit peu théâtre. Hein, bon, on sait très bien que n'importe comment, si les Russes veulent les envahir, s'ils ne comptent que sur eux, ben, ils se feront envahir à nouveau, ils feront partie de l'Empire soviétique, quoi, enfin de l'Empire russe. Ouais.
Justement, je ne suis pas une spécialiste absolue de cette question, mais les propos notamment du nouveau président américain élu sur l'avenir de l'OTAN, le soutien des États-Unis, que les pays, peut-être un peu conditionnels, etc., ça a fait, on va dire, quand même ressurgir des craintes qui font que. Et l'idée, c'est vraiment de dire que certes on ne pourra pas lutter contre les Russes, que néanmoins on peut les faire souffrir et qu'à terme, hein, pourquoi pas, ça peut avoir quand même un effet dissuasif. Mais après, c'est important, je pense, le point que vous soulignez, puisque on a beaucoup parlé, évidemment, puisque pour mettre en évidence des choses qui sont un petit peu moins connues, hein, des petits États, de leur capacité créative, d'adaptation, etc. Mais, bien évidemment, ils s'inscrivent aussi dans l'ordre du système international et ils inscrivent aussi leur diplomatie dans des cadres plus traditionnels et qu'on connaît tout à fait habituellement, desquels on est plus habituel, comme, bien évidemment, l'OTAN, qui reste extrêmement important pour ces petits États.
Anecdotiquement, je réagissais à cette stratégie que tu évoquais pour l'Estonie en disant qu'elle porte un nom à Singapour, ça s'appelle the poison shrimp, la stratégie de la crevette empoisonnée, c'est-à-dire l'idée que si on s'attaque à Singapour, ça sera très compliqué, même si il peut sembler facile de conquérir territorialement cet État, il sera particulièrement compliqué de parvenir à le soumettre.
Parce qu'ils ont développé des stratégies un peu similaires, vous voulez dire ?
Alors, il y a l'idée d'une défense totale, effectivement, qui intègre chaque citoyen dans une vision globale de la défense, qui lie très étroitement sécurité et défense, avec l'idée que chaque citoyen est acteur, effectivement, de la défense. Ça ne va pas jusqu'à un entraînement spécifique, mais il y a un service militaire qui est très développé, qui dure longtemps, je ne sais plus si c'est un an ou deux, et par lequel passe l'ensemble des jeunes garçons. Ouais.
Juste une petite question, parce que moi, je n'ai pas une vision aussi globale du monde, mais par exemple, en termes d'Union européenne, être un petit État peut être aussi un avantage, parce que on est considéré comme étant neutre, et donc finalement, on accède à des postes stratégiques plus facilement que si on est issu d'un État plus puissant. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui est revendiqué par les petits États ou sur lesquels ils jouent beaucoup, ou c'est quelque chose dont ils héritent avec l'état actuel des enjeux, enfin des rapports de force, mais est-ce qu'ils ont une sorte d'action diplomatique pour renforcer encore cette position ?
Il suffit de regarder effectivement la localisation des institutions européennes, Belgique, Luxembourg. Effectivement, une des raisons pour lesquelles elles sont localisées sur le territoire de ces États était précisément, comme vous le dites, le fait que ça n'est pas un des grands et que donc ils auront une position plus neutre ou plus conciliante en cas de négociation. Le secrétaire général des Nations Unies a effectivement dit il y a quelques années dans un discours devant le Forum des petits États que les petits États ont par nature vocation à jouer un rôle de médiateur et une posture conciliante. Alors, ce qu'on observe, c'est que ça n'est pas toujours le cas. Pour certains, ça fait partie de leur diplomatie. On l'évoquait tout à l'heure dans le contexte de la Norvège, de la Finlande. Ça peut être mentionné aussi l'ancien président finlandais, Martti Ahtisaari, qui a été prix Nobel de la paix pour son rôle de médiateur, notamment au Kosovo ou en Aceh. Mais ce n'est pas le cas de tous. Donc ça peut faire partie d'un appareillage ou de stratégie diplomatique, mais tous les petits États n'ont pas vocation à se poser en médiateur. Certains sont tout à fait confortables dans une stratégie de passager clandestin d'alliance plus large et dans laquelle ils préfèrent faire du suivisme tout simplement à l'égard d'États plus grands qui leur confèrent aussi des avantages ou une protection. Donc là encore, je pense qu'on revient à la possibilité pour ces États et leurs responsables de choisir une position et au fait qu'il n'y a pas de détermination et que même le rôle de médiateur n'est pas... Il y a peut-être une prédisposition parce que ces petits États inspirent plus de confiance, mais elle n'est pas nécessairement suivie par leurs dirigeants.
Et effectivement, sur le cas de la coopération européenne, ce qu'on constate, c'est que dans la haute fonction publique internationale européenne, c'est souvent des petits États qui vont beaucoup s'investir et l'attribution même des postes plus politiques, par exemple à la Commission européenne ou l'élection du président du Parlement européen, etc., c'est souvent des ressortissants, alors pas forcément des tout petits États, mais de moyens États, disons, et rarement de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, qui sont les États qui sont un peu... Voilà, les puissances leaders de l'Union européenne et dont le choix symbolique serait effectivement beaucoup plus clivant diplomatiquement.
En tout cas, c'est vrai pour la présidence de la Commission. Hein. Je veux dire, les Luxembourgeois ont eu au moins deux présidents de la Commission. Il y avait Thorn dans les années 70, Juncker aujourd'hui. Avant, c'était Barroso qui était Portugal, bon, qui est pas aussi petit que le Luxembourg, certainement, mais ce n'est pas un État qui compte. Donc je pense en effet, le fait que ce soit un État qui prétend pas justement avoir une politique mondiale comme la France ou la Grande-Bretagne ou même l'Allemagne, hein, compte en effet et joue plutôt à leur avantage dans ce type d'institution. Ça me paraît assez clair.
J'ai deux questions. La première concerne... le Vatican, est-ce que le Vatican est considéré comme un petit État avec une diplomatie mondiale, et est-ce qu'il y a d'autres petits États qui ont une diplomatie mondiale? Et j'ai une autre question qui concerne les petits États insulaires. Est-ce qu'il y a une discussion à l'heure actuelle sur le statut de ces États s'ils venaient à perdre leur territoire? Et en particulier, est-ce qu'ils conserveraient leur zone maritime?
Alors, je veux bien répondre sur le Vatican. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 451 citoyens. Donc, effectivement, c'est un très petit État. Ouais. Ceci dit, le Saint-Siège, c'est deux choses. Vous l'avez bien dit. C'est effectivement ces 451 citoyens. Ils sont peut-être un peu plus aujourd'hui. Je ne sais pas. Le Vatican en gagne et il en perd régulièrement.
Tout dépend de leur taux de reproduction.
Ouais. De fait. Donc, ce n'est pas uniquement ces 451 citoyens. C'est évidemment les 1,3 milliard à peu près de catholiques revendiqués dans le monde, qui lui donne bien sûr sa force de frappe considérable. Donc oui, le Vatican est considéré comme un État. C'est très intéressant d'ailleurs de voir qu'il est institutionnalisé tout à fait comme un État, avec les nonces apostoliques qui sont des diplomates du Vatican, avec un statut diplomatique qui exercent leurs fonctions diplomatiques auprès des 130 à peu près pays partenaires du Vatican. Donc les autres n'ont pas reconnu officiellement le Vatican comme État, mais il y en a 130 qui l'ont reconnu. Il y a un bémol à ça, qui est que le Vatican n'a qu'un statut d'observateur aux Nations Unies. Il n'en est pas membre plein, notamment parce qu'il n'entretient pas de relations diplomatiques officielles avec la Chine, ce qui lui empêche d'accéder au statut de membre à part entière de l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque la Chine pourrait opposer son veto. Mais pour le reste, oui, bien sûr, le Vatican a une diplomatie tout à fait classique. Ceci dit, je ne suis pas absolument certaine qu'on puisse l'apparenter à la diplomatie d'un petit État, ou alors avec une spécificité qui est que sa force de frappe est bien sûr considérable. Quand Staline disait « le Vatican, combien de divisions ?», on a rapidement vu qu'on ne pouvait absolument pas limiter la force de frappe du Vatican à son absence de fait de division militaire, puisque le rôle qu'il a joué dans la fin de la guerre froide, notamment en Pologne, a bien démontré qu'il avait bien sûr une influence qui allait bien au-delà de sa très faible population et de ses faibles capacités.
Oui, alors juste sur ce point d'ailleurs, tout récemment encore, on a vu par exemple le fait que des États qui sont en général en effet de tradition catholique, où le catholicisme est très important, faire appel au Vatican, au Venezuela par exemple, où la situation politique interne est complètement bloquée, entre Maduro, du parti de Chavez et l'opposition, ils ont fait appel au Vatican pour essayer de sortir de l'impasse. Donc on voit en effet que c'est un petit État, évidemment, même un micro-État à certains égards, mais qui est quand même dans une situation radicalement différente d'un micro-État classique.
C'est une catégorie à part entière, en fait. Donc on aurait des difficultés à le comparer ou à le faire rentrer dans cette catégorie générale, même si elle est très fluctuante.
Alors sur le deuxième aspect de la question, sur les États insulaires qui se sentent à l'aise pour...
C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. Je suppose que c'est un des enjeux de négociation, mais très honnêtement, je ne peux pas là vous en dire plus.
Ouais, je peux peut-être partiellement répondre à la dernière partie de votre question qui était sur les eaux territoriales. À partir du cas que je connais le mieux, qui n'est pas celui d'un micro-État, mais qui est celui d'un État archipélagique, qui est l'Indonésie, effectivement, quand une île disparaît, ce qui arrive régulièrement moins pour des raisons de changement climatique, mais plutôt pour des raisons d'extraction illégale de sable d'îles périphériques de l'Indonésie, ça réduit d'autant le pourtour des eaux archipélagiques de l'Indonésie. C'est la raison pour laquelle c'est un enjeu stratégique très important que de ne pas perdre ces îles extérieures, même si elles ne sont pas habitées, même si elles ne représentent pas grand-chose en termes de ressources naturelles. Donc j'imagine qu'on peut extrapoler à partir de cette réponse-là sur le fait que si un État, si une île disparaît, effectivement, le territoire se réduit. Les eaux maritimes, les eaux territoriales se réduisent.
Bonsoir. En fait, moi, j'aimerais revenir sur un point sur le rôle déterminant qu'un petit État peut jouer au niveau géostratégique et géopolitique mondial. Et juste là, pour prendre l'exemple du Cuba, pendant la guerre froide, donc ils ont joué un rôle très déterminant. Et là, plus présentement, l'exemple de la reconnaissance de l'État palestinien et puis les relations diplomatiques que peuvent entretenir tous les autres États du monde avec l'État juif Israël. Donc je pense qu'un petit État peut aussi, pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau politique et géopolitique, jouer un rôle très déterminant à ce voilà, sur le plan mondial. Donc, du coup, comme je ne sais pas, vous avez cité beaucoup d'exemples, hein, mais j'aurais aimé voilà, qu'on parle un petit peu du Cuba pendant la guerre froide et puis présentement Israël et Palestine.
Je ne sais pas si quelqu'un se sent à l'aise avec Cuba, s'il y a des choses à dire sur Cuba. Là, Cuba, justement, il y a un petit lien aussi avec le Vatican, hein, où on voit aussi que le Vatican a joué un rôle très important pour dans le rapprochement avec les États-Unis et tout ça. Donc, bon, ça, c'est bon, un petit incident, mais qui me paraît bien. Mais je ne sais pas si des compléments éventuels sur Cuba ou...
Non, mais enfin, plus généralement, ouais, en fait, ouais. Votre question et votre remarque est tout à fait pertinente. Hein, les petits États, on ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, mais comptent aussi dans le système international par les réactions qu'ils vont provoquer de la part des grandes puissances. Et voilà, Cuba, pendant la guerre froide, bah, effectivement, Israël et la Palestine en ce moment sont des enjeux en fait, qui vont structurer le monde et dans lequel on va voir les oppositions sur laquelle tous les autres États vont se positionner et qui donc vont structurer également les relations interétatiques entre moyenne puissance, grande puissance. Et ça, c'est effectivement un effet très important de ces États membres de la communauté internationale. La taille, finalement, n'a rien à voir avec l'impact que l'on peut avoir sur l'organisation du système international. Alors, ça ne va pas être de la même manière, par les réactions provoquées, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte.
Oui, c'est intéressant de voir que les États qui votent systématiquement contre les résolutions pro-palestiniennes aux États-Unis sont toute une série de petits États très proches des États-Unis, très dépendants des États-Unis, qui n'ont vraiment rien à voir avec le conflit, en fait, et qui n'ont aucun intérêt direct à intervenir sur ces questions-là. Il y a un cas qui est à la fois différent et similaire, dont on n'a pas parlé du tout, qui est la question de la reconnaissance de Taïwan. On ne peut pas reconnaître officiellement à la fois Taïwan et la Chine continentale, puisqu'il faut choisir entre les deux, puisque les deux se considèrent comme la Chine. C'est intéressant de voir qu'au cours des 20 dernières années, un certain nombre de petits États qui entretenaient des relations diplomatiques officielles avec Taïwan ont changé d'alliance et ont choisi de reconnaître officiellement la Chine et de mettre fin à leurs relations officielles avec Taïwan parce qu'ils y avaient intérêt. Donc, bien sûr, les petits États jouent aussi un rôle de ce point de vue-là.
C'est pareil avec le Kosovo, hein, la reconnaissance du Kosovo, effectivement, où on a ce basculement d'un État reconnu juridiquement, mais dont, en réalité, la reconnaissance politique est bien supérieure, parce que voilà, c'est un peu combien d'alliés on arrive à rallier, et puis combien d'alliés voilà, on perd aussi, comme dans le cas de Taïwan.
Oui, parce que là, évidemment, il y a la question des États... reconnus partiellement, finalement, comme Kosovo, ou de moins en moins reconnus comme Taïwan, mais qui, par ailleurs, peuvent continuer à avoir des relations officieuses. Bon, à Paris, ils n'ont pas d'ambassade, mais ils ont une sorte de bureau qui, en fait, continue à les représenter. Donc, il y a des relations informelles aussi. Ça, c'est... Mais ça, c'est évidemment pour des cas assez singuliers, comme le cas chinois que vous avez évoqué, ou le cas du Kosovo, qui est un État, disons, contesté, même si la reconnaissance a cru. Bon, il continue à être un État, finalement... pas totalement ayant tous les attributs d'un État. Et là, on voit que la question de la reconnaissance joue évidemment qu'on compte énormément.
Et de la reconnaissance, pour le coup, pour le Kosovo, des grandes puissances, puisque ce qui bloque, c'est la Chine et la Russie dans le cas de la reconnaissance du Kosovo.
Autre question ?
Oui, bonsoir. Je m'adresse à Mme Alès dans un premier temps, parce que là, vous m'avez appris quelque chose de très, très étonnant, enfin inattendu, et je vous en remercie, à savoir l'importance de l'Indonésie, qui apparemment vous êtes très bien ferré là-dedans, vous aimez ce pays, et surtout sans l'importance de son budget militaire. On peut s'interroger là-dessus sur les motivations de cette orientation d'un petit pays. Est-ce que c'est vraiment uniquement pour des raisons... Enfin, on peut se demander si c'est uniquement pour des raisons stratégiques, hégémoniques ou même défensives, alors qu'il peut y avoir d'autres impératifs ou d'autres considérations, d'ordre socio-économique. C'est une manière comme une autre de combattre le chômage au lieu de verser des allocations sociales. Soit il y a encore un motif plus fin, plus profond, à savoir que... Excusez-moi. Singapour, c'était toujours... Bien sûr, c'est une île, mais surtout un port de marchands et un peuple d'origine très, très diverse. OK ? Bon. Comme ils ont... Au fil du temps, ils se sont aperçus... Bon, ils sont indépendants maintenant. Ils ont besoin de se créer, de se forger une identité nationale. OK ? Alors, l'armement, c'est un excellent ciment pour rapprocher le peuple, pour se créer un nationalisme digne de ce mot. Okay. Bon, et là, oui, ok, allez-y.
Oui, non, bien sûr que le service militaire en particulier a cette vocation de cimenter une communauté et de promouvoir la nation ou l'identité nationale singapourienne. Ceci dit, je pense que la construction de la politique de défense de Singapour, initialement, elle est vraiment liée aux conditions dans lesquelles la cité-État a obtenu son indépendance, qui sont extrêmement singulières. Je pense qu'il n'y a pas d'autre exemple similaire à celui-là d'un État qui a été expulsé, donc qui n'a pas choisi d'obtenir son indépendance, qui ne l'a pas revendiqué, mais qui l'a obtenu dans des conditions de tension extrême avec la Fédération de Malaisie, dont Singapour était issue à l'origine. Donc le sentiment de vulnérabilité, il repose d'abord sur cette origine extrêmement singulière qui est celle de la cité-État singapourienne. Et ensuite, bien sûr qu'il y a cet aspect de construction nationale qui est très présent, dans le fait que Singapour valorise notamment à travers son service militaire, mais aussi sa fonction publique, l'idée effectivement d'un multiculturalisme basé sur le mérite et non pas sur l'appartenance à une catégorie ethnique ou à une autre. Donc c'est promu jusqu'à un certain degré au sein de l'armée. Je dis jusqu'à un certain degré parce qu'on retrouve finalement assez peu de minorités au rang important, au rang les plus élevés du commandement, mais il y a néanmoins bien sûr un aspect multiculturel, un brassage de population comme on le retrouve très couramment dans les pays qui ont un service militaire.
Bien, mais écoutez, je crois qu'on va en rester là. Je vous remercie pour les questions et pour l'attention avec laquelle vous avez suivi ce débat. Je remercie mes trois collègues pour leur présentation. Aussi, un tout petit mot pour l'atelier de cartographie qui a fait ses cartes de Sciences Po, qui a fait ses cartes qu'on a pu vous présenter ce soir. Et merci encore une fois à Jérémy et à la BPI pour nous accueillir ici. Je te passe la parole.
Merci à tous les quatre. C'était passionnant, un régal de vous écouter. Donc ça fait un document de plus finalement à notre belle collection de séances enjeux internationaux pour essayer de mieux comprendre la complexité de certaines situations de relations internationales. Je vous donc une collection qui s'ajoute puisqu'on enregistre toutes ces séances. C'était diffusé en direct et ça sera disponible en ligne d'ici quelques jours grâce au travail d'orfèvre de la régie, que ça me donne l'occasion de les remercier. Et donc, ça sera disponible d'ici quelques jours et je vous donne rendez-vous pour les prochaines séances du cycle. La prochaine aura lieu le 26 janvier autour de des pirates, de la piraterie. On sera pas trop loin finalement, je pense que ça peut concerner certains des États dont on a parlé, notamment le détroit de Malacca, qui est une des zones de piraterie les plus intenses dans le monde. Donc on parlera, ça sera une nuit de la piraterie qui se déroule dans le cadre de la Nuit des idées de l'Institut français, qui abordera les différents aspects contemporains de cette figure, à la fois sur les mers, mais aussi dans d'autres réseaux. Et puis je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine dans un autre cadre, parce qu'on fait une séance qui peut aussi vous intéresser sur le débat dans la société. Donc c'est un peu une mise en abîme finalement du travail qu'on fait ici tous les jours, c'est qu'est-ce que le débat, comment il s'organise, quels sont les acteurs de ce débat. C'est un peu pour questionner le rôle notamment des médias et en particulier des chaînes d'information dans l'orientation du débat. Donc questionner les termes de controverse, de polémique et voilà, comment elles s'organisent. Donc ça c'est lundi prochain et puis pour les prochaines séances du cycle enjeux internationaux qu'on est en train de préparer pour vous. Donc voilà, bonne soirée à tous et à bientôt.